Bien, merci Marcel et merci à tous les auditeurs de Radio Okapi, partout où vous êtes en République démocratique du Congo. Et merci à vous qui nous écoutez à l'étranger sur www.radiookapi.net. Et merci à toute l'assistance, voilà, tous qui sont venus nombreux pour assister à cette émission spéciale à l'occasion des 70 ans de l'UNICEF et à l'occasion de la célébration de la Convention relative aux droits de l'enfant. Alors, dans cette deuxième partie de l'émission, nous parlons des 70 ans de l'UNICEF, bilan et perspectives en RDC. C'est parti pour la deuxième tranche de cette émission Okapi Service en direct de l'espace Bilembo à Kinshasa à l'occasion des 70 ans de l'UNICEF. Et dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons faire le bilan des actions de l'UNICEF en RDC en partenariat avec le gouvernement congolais et parler des perspectives. Alors j'ai sur ce podium Dr Pascal Villeneuve, représentant de l'UNICEF en RDC. Rebonjour.
Rebonjour.
Alors il n'est pas seul, nous avons également Monsieur Malaba, prenez le micro, il est le directeur, chef des services et secrétaire général AI au ministère de la Santé publique. Monsieur Malaba, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à cette invitation et merci à vous tous qui êtes là pour participer à cette émission spéciale Okapi Service. Et merci à toute l'équipe de production, Sylvain Matundu, Tati Mapuku Nunungoy, et toute l'équipe Nico Kalambay, Patrick Yassongwa. Merci à vous tous qui êtes là pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Bien, depuis plus de 50 ans, l'UNICEF collabore avec la RDC afin de répondre aux besoins des enfants et aux privations dont ils sont trop souvent victimes. Alors, l'UNICEF et la RDC et le gouvernement de la RDC mettent en œuvre des programmes dans des domaines aussi variés que la santé, la nutrition, l'éducation, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, etc. Alors, quelles sont les avancées enregistrées jusqu'à ces jours et quelles sont les perspectives d'avenir? Je commence avec vous, M. Malaba. Vous êtes directeur chef des services et secrétaire général AI au ministère de la Santé publique. Alors, comment aujourd'hui, quel bilan vous faites de la collaboration entre l'UNICEF et la RDC dans le domaine de la santé, particulièrement?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, d'avoir associé le ministère de la Santé à cette célébration des 70 ans, 70 ans de l'UNICEF. Par rapport au bilan, je voudrais dire que l'UNICEF est un grand partenaire du ministère de la Santé et avec l'UNICEF, le ministère de la Santé a réalisé beaucoup d'activités et a atteint beaucoup d'autres objectifs et certains sont atteints, mais nous pensons que le bilan est suffisamment positif pendant cette longue durée de collaboration avec l'UNICEF.
Et quels sont les différents programmes avec lesquels vous collaborez avec l'UNICEF?
Oui, l'UNICEF collabore avec le ministère de la Santé dans plusieurs domaines, vous l'avez évoqué. Nous avons le domaine de la nutrition, le domaine de l'eau et assainissement, le domaine de la santé de la reproduction, le domaine de la santé de l'adolescent et en général les domaines de l'enfant, de la mère et de l'adolescent. En tout cas, ces domaines-là ne sont pas abandonnés, sont appuyés suffisamment par l'UNICEF et même en dehors de ces domaines qui sont appuyés, vous avez des interventions aussi sporadiques que l'UNICEF apporte au ministère de la Santé. Voilà à peu près, donc je dis C'est pourquoi je disais que le bilan est suffisamment positif.
Voilà. Dans le domaine de la vaccination, par exemple, pouvez-vous nous rappeler ce qui a été fait ensemble par rapport à la vaccination des enfants RDC?
D'ailleurs, c'est par là que je devais commencer, parce que pendant tout ce temps, l'UNICEF a accompagné le ministère de la Santé dans le cadre des vaccinations, et avec l'UNICEF, on a pu éradiquer certaines maladies, et même certains sont en cours d'éradication, notamment la polio. Donc, dans le domaine de la vaccination, l'UNICEF apporte son appui sur le plan d'achat de vaccins, sur le plan logistique, sur le plan de la chaîne de froid. En tout cas, l'UNICEF intervient suffisamment dans le cadre de la vaccination et même dans la proposition de deux stratégies pour pouvoir vacciner l'enfant et en fait en cas de nécessité.
Docteur Pascal Villeneuve, dans le cadre dans le domaine de la vaccination, quelles sont les avancées réalisées et qu'est-ce qui reste à faire dans ces secteurs-là?
Bon, il y a eu des avancées très importantes. Si l'on regarde ce qui a été l'évolution, par exemple, de la vaccination depuis le lancement du programme élargi de vaccination dans les années 1980, à l'époque, la couverture vaccinale était très basse. Maintenant, on estime que plus de 70% des enfants ont, par exemple, été vaccinés contre la rougeole et contre les autres maladies ciblées par ce programme. Évidemment, les résultats, peut-être le résultat le plus important, c'est celui qui concerne l'éradication de la poliomyélite, puisque la RDC est certifiée comme pays libéré en quelque sorte de la polio, qui était l'une des maladies les plus invalidantes dans le temps. On se rappelle tous ces enfants qui étaient paralysés. Maintenant, on en voit très très peu. Donc ça, c'est vraiment un résultat très important. Il faut aussi noter que la RDC est en bonne voie d'éliminer une autre maladie tueuse de l'enfant, qui est le tétanos néonatal. Et un certain nombre de choses. La rougeole, qui était l'une des principales causes de mortalité chez l'enfant, ne l'est plus, même s'il existe encore des zones où il y a des épidémies de rougeole. Néanmoins, la rougeole n'est plus une des principales causes de mortalité de l'enfant à cause de la vaccination. Tout cela est possible grâce à l'action du gouvernement, de l'UNICEF, mais aussi d'autres partenaires importants, et je pense que c'est important de les souligner, l'Organisation mondiale de la santé et aussi l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, qui apporte des fonds très importants pour ce programme.
Voilà. Alors, docteur Malaba, pardon, monsieur Malaba, dites-nous encore qu'est-ce qui a été fait encore ensemble avec l'UNICEF dans d'autres secteurs, par exemple dans les secteurs de l'eau, l'hygiène et l'assainissement.
Dans les secteurs de l'eau et assainissement, l'UNICEF apporte son appui au programme Village Assaini et Centre de santé Assaini et École Assaini. Et vous voyez que ces apports-là apporte l'amélioration de la santé dans la communauté. Donc, dans ce domaine de l'hygiène, je pense que l'UNICEF apporte suffisamment au ministère de la Santé pour l'atteinte des objectifs.
Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a été fait concrètement dans ce secteur-là? Par exemple, pour le cas de l'école Assaini.
Oui. Je peux peut-être faire intervenir
Le directeur du programme qui est là, docteur Mavar, voilà. Tati, est-ce qu'on peut donner le micro à docteur Mavar, qui va nous dire qu'est-ce qui a été fait dans ce... Docteur, il y a un micro de l'autre côté, vous pouvez aller là-bas. Alors, si vous avez aussi des questions par rapport à tout ce qui a été fait, n'hésitez pas, faites-nous signe, et Tati va passer avec le micro. Bonjour, docteur Mavar.
Bonjour.
On vous écoute. Qu'est-ce qui a été fait ensemble avec l'UNICEF dans les secteurs de l'eau, l'hygiène et assainissement?
Merci beaucoup. Je pense que dans ces domaines, comme l'a dit monsieur le secrétaire général AI, l'UNICEF a beaucoup fait. Vous savez que l'UNICEF est l'un des partenaires, je peux dire, du programme Village Assaini, parce que l'UNICEF coordonne tous les appuis de tous les autres partenaires et bailleurs au niveau du programme École et Village Assaini, notamment l'USAID et DIFID. Et dans ce domaine-là, je dirais que l'UNICEF accompagne le programme École et Village Assainis dans la mise en œuvre des activités de l'eau, hygiène, assainissement. D'abord au niveau des communautés villageoises. Deuxièmement...
Dans quel village par exemple?
Aujourd'hui, dans plus de 5000 villages. Dans 5000 villages. Et au fait, ce programme touche aujourd'hui plus de 4 millions de personnes qui vivent avec l'appui de l'UNICEF. Avec cet appui également, nous avons amélioré, comme l'a dit Monsieur le Secrétaire Général, les indicateurs, c'est au fait la réduction des maladies liées à l'eau, à l'hygiène, l'assainissement, mais également des maladies des mains sales. Et vous avez posé la question tout à l'heure par rapport aux écoles assainies. Il y a également des interventions très sensibles de l'UNICEF, nous pouvons l'affirmer. Aujourd'hui, plus de 1700 écoles sont touchées par les programmes écoles assainies avec l'appui UNICEF et qui touchent aujourd'hui plus de 800 000 élèves. Donc vous voyez déjà, il y a un grand changement des comportements et en fait cet appui améliore les indicateurs au niveau des enfants et améliore les rendements scolaires de ces enfants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, très peu d'enfants qui sont touchés par les programmes École Assainie sont de moins en moins malades et au fait ça favorise au fait l'expansion et les rendements scolaires de ces enfants. En dehors de ça, évidemment, je dirais, parce que j'ai encore le micro, je dirais que l'UNICEF également appuie dans le cadre de la Direction nationale de l'hygiène à l'élaboration de la politique nationale de l'hygiène. Et ça, c'est quelque chose que nous avons apprécié parce qu'au fait, ça fait plus d'une dizaine de décennies que nous n'avons pas de politique. Et l'UNICEF a permis à nous doter encore de cet outil qui est important, mais également les codes de l'hygiène et les plans quinquennales. Aujourd'hui, avec, je pense, l'UNICEF, je pense que nous sommes en train d'améliorer nos indicateurs, surtout par rapport à l'eau, l'hygiène, l'assainissement, mais également certains outils importants au niveau du ministère de la Santé.
Merci, docteur Mavard, pour cette intervention. Alors, y a-t-il des questions? Des questions par rapport à ce qui a été dit dans la salle? Passez au micro, passez rapidement. Voilà, nous sommes en direct de l'espace Bilembo. Nous organisons cette émission spéciale au Capi Service à l'occasion des 70 ans de l'UNICEF. Et sur ce plateau, nous avons Dr Pascal Villeneuve, représentant de l'UNICEF en RDC, et M. Malaba Mounianji, directeur, chef des services et secrétaire général AI au ministère de la Santé publique. Oui, bonjour, et quelle est votre question?
Ok, bonjour, moi c'est Mervin Toumba, jeune reporter de Kinshasa. Ma question, c'est beaucoup précisément sur thématique survie et plus précisément encore avec le programme OASH, eau assainissement. Il y a le gouvernement congolais, l'UNICEF, il y a bien longtemps, ils ont mis en place le programme École et Village Assainis. Et aujourd'hui, que l'UNICEF célèbre son existence ici en RDC plus de 50 ans, le programme et Village Assainis a été concentré beaucoup plus aux villageois, disons aux enfants qui vivent dans le milieu rural. Et avec les enfants qui vivent dans le milieu urbain, il y a aussi des écoles. Pensez-vous qu'avec ce programme, il y a des avancées? Parce que vous fêtez déjà vos plus de 53 ans, donc disons 53 ans d'existence et de collaboration ici en RDC. Et par rapport à cette collaboration, quand nous rentrons avec la CDE, Convention relative aux droits de l'enfant, il y a l'article qui dit que tout enfant doit jouir de ses droits. Et là, n'est-ce pas que c'est la discrimination? Ou c'est juste, vous allez me dire que non, il y a plus des enfants de milieux ruraux qui ont plus de besoins et non les enfants qui vivent dans le milieu urbain. C'est ça la question.
Merci. Un autre jeune reporter, bonjour.
Okay, merci pour la parole. Je m'appelle Carmen Domba, jeune reporter.
Oui.
Je pense que pour que nous dressions de manière correcte et assez précise le bilan de l'UNICEF depuis qu'il est en RDC, il faudrait tout d'abord que M. Pascal essaie de nous redéfinir une fois de plus quels étaient les objectifs que s'étaient fixés l'UNICEF et le gouvernement lorsqu'ils ont signé l'accord de coopération et leurs évolutions au cours du temps, et essayer de se situer actuellement par rapport à ces objectifs, ce qui nous permettra de savoir quels sont les secteurs qui ont connu des évolutions et quels sont les autres qui ont été moins réussis. Deuxièmement, lorsque l'UNICEF a signé l'accord avec la RDC, l'accord de coopération, la participation des enfants n'était pas un droit qui a été... qui occupait une place prépondérante dans les différents programmes de l'UNICEF. Alors j'aimerais savoir actuellement quelle est la place de la participation des enfants à l'UNICEF et quelles sont les perspectives à venir. Et troisièmement, lorsque nous regardons le parcours des 53 ans que l'UNICEF avait est en collaboration avec la RDC, nous remarquons de manière étonnante une, bon, qu'est-ce que je peux dire, une dépendance du gouvernement congolais au financement d'UNICEF. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tous les programmes de la RDC qui sont destinés aux enfants sont, je dirais, dépendants des financements d'UNICEF. Alors j'aimerais savoir si le gouvernement congolais continuera dans cette politique de dépendance ou va opter pour plus d'autonomie. Merci.
Merci. Alors de l'autre côté, il n'y a pas assez de questions. De ce côté, je ne sais pas pourquoi. Et, le micro est là, venez, nous parlons des 70 ans de l'UNICEF et ce qui a été fait dans le domaine de la santé. N'hésitez pas à venir rapidement poser vos questions. Bonjour, quel est encore un autre jeune reporter,
bien
j'imagine.
Sûr,
hein?
Bien
d'accord.
Sûr.
Quelle est
voilà.
la question?
Voilà, je suis Hervé Lola, jeune reporter. Voilà, j'aimerais, n'est-ce pas, qu'il vous plaise de me permettre de m'acquitter de ce devoir qui est pour moi un devoir social, de remercier l'UNICEF et le féliciter pour tout ce qu'il a pu faire dans la promotion et la défense des droits de l'enfant jusqu'à ce jour. Eh bien, ma question est celle-ci. 70 ans dans le monde, 53 ans en République démocratique du Congo, si c'était un humain, on dirait que l'humain a vieilli. Et donc, j'aimerais maintenant savoir quelles ont été, n'est-ce pas, monsieur le représentant de l'UNICEF, les difficultés que vous avez rencontrées dans la mise en œuvre de vos différents objectifs en RDC qui se résument dans les quatre thèmes, la survie, la santé, la protection et, n'est-ce pas, le développement.
Merci. Le suivant.
Cette fois-là, c'est pas un jeune reporter en tout cas.
Ah, c'est pas un jeune reporter.
C'est Pistis Mbambi de Youfim.
C'est quoi Youfim?
Youfim Forum Jeunes pour les ODD. C'est une ONG de jeunes qui travaille sur les objectifs de développement durable. En fait, je profite de la représentation du ministère, en fait, du ministère de la Santé publique pour poser ma préoccupation. En fait, actuellement, il n'est plus à cacher. Les enfants, les jeunes, plus particulièrement les enfants, sont activement sexuels déjà dans l'âge des 12 ans, 11 ans et comme ça. Mais il est vraiment regrettable de constater que dans notre pays, il n'y a pas de texte juridique qui permettent à ce que les enfants se fassent dépister seuls lorsqu'ils sont ils sont en face de cette envie. En fait, je veux savoir pourquoi il n'y a pas de texte juridique pour ça. Et ne pensez-vous pas que c'est un des droits de l'enfant qui est violé? Merci beaucoup.
Bien, merci pour toutes ces questions. Docteur Mava, il y a une question qui vous a été adressée par rapport au village Assini. Pourquoi vous vous occupez seulement des enfants qui sont dans les milieux ruraux et vous abandonnez ceux qui sont dans les centres urbains?
Merci beaucoup. Je remercie les collègues qui ont proposé la question. Et bon, évidemment, dans le cadre du programme École et Village Assini, lorsque nous parlons village, c'est au fait qu'il faut voir les milieux ruraux. Mais ce n'est pas la seule stratégie au niveau du ministère de la Santé. Lorsque nous parlons village, c'est il faut voir le milieu rural. Et vous savez que au niveau du pays, plus de 70% de la population vit en milieu rural. Et quand vous regardez par rapport à la situation socio-sanitaire de cette population, les populations en milieu rural sont beaucoup plus vulnérables que ceux qui sont à Kinshasa. Mais néanmoins, le gouvernement a mis en place une autre stratégie en milieu urbain, qui consiste à appuyer au fait des interventions pour les enfants, pour les écoles en milieu urbain. Et aujourd'hui, par exemple, le gouvernement est en train de doter au fur et à mesure des équipements, mais aussi des moyens et des infrastructures sociales au niveau des écoles, que ce soit en milieu urbain et en milieu rural. Et par rapport au programme École et Village Assini, nous avons beaucoup plus dédié à ces populations, à vos amis, à vos collègues qui sont beaucoup plus vulnérables en milieu rural, pour qui il y a parfois des difficultés pour accéder à l'eau. Lorsque en milieu urbain, on a l'eau par exemple de la régie, vous savez qu'en milieu rural, ces enfants la peinent et font parfois 5 km pour amener un bidon d'eau. Donc il faut les aider à mieux croître et à mieux se développer. C'est pour cela que le programme est beaucoup plus destiné en milieu rural qu'en milieu urbain. Ça, c'est dans le cadre de développement. Mais néanmoins, dans le cadre des urgences, On intervient également lorsqu'il s'agit d'un problème en milieu périurbain ou alors en milieu urbain.
Merci docteur Navarre pour ces précisions. Docteur Pascal, il y a une question qui vous est adressée par rapport aux objectifs signés avec le gouvernement. Quels sont les objectifs qui ont été déterminés ensemble et qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire?
Merci beaucoup. Alors, avant peut-être de répondre directement à cette question, je voulais également compléter la réponse du docteur Mavard. À l'UNICEF, l'un des grands principes sur lesquels nous fondons nos programmes, c'est l'équité. Ok, donc c'est de réduire les inéquités, notamment entre milieux rural, urbain, entre hommes et femmes, etc. Or, en matière d'accès à l'eau potable, il faut comprendre que à l'heure actuelle, le pourcentage de la population qui a accès à de l'eau potable est supérieur en milieu urbain qu'en milieu rural. Et cela de façon assez importante. Et donc, il est naturel que, en tout cas en ce qui concerne l'UNICEF, en collaboration avec le ministère de la Santé, nous nous intéressions d'abord à la question de l'accès à l'eau potable en milieu rural. Au niveau des objectifs de coopération, tous les 5 ans, nous remettons à plat notre programme de coopération, puisque ce sont des programmes de 5 ans. Voilà. Donc, lorsque le programme actuel a démarré, il y a maintenant 4 ans, eh bien, l'idée, c'était d'inscrire notre programme dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement du millénaire. D'accord, dont l'horizon était fixé à 2015. Et c'est peut-être par rapport à cela que l'on peut faire un bilan effectivement rapide de l'atteinte des objectifs de développement du millénaire par la RDC. Le bilan, malheureusement, n'est pas très bon puisque la RDC n'a atteint aucun des objectifs de développement du millénaire, notamment dans le domaine de la survie de l'enfant, de la nutrition. Néanmoins, il y a eu quand même des progrès accomplis dans le domaine de la survie de l'enfant. Il y a eu des progrès importants puisque en l'espace de 7 ans, la mortalité infanto-juvénile a baissé de 30%, notamment, comme je le disais tout à l'heure, grâce aux progrès de la vaccination. Dans d'autres domaines, par contre, il y a eu stagnation. Dans le domaine de la lutte contre la malnutrition, il y a eu peu de progrès accomplis puisque le taux de malnutrition chronique reste de l'ordre de 40%. En matière d'éducation, il y a eu des progrès importants accomplis en matière de scolarisation et aussi de réduction entre filles et garçons, puisque l'on sait qu'à l'entrée au primaire, il y a pratiquement plus de différence. Néanmoins, il y a encore des défis en matière de qualité de l'éducation, etc. On pourrait continuer un petit peu à décliner tout ça, mais on n'a peut-être pas assez de temps.
D'accord. Nous avons la réaction d'Albert Ilunga, qui nous a écrit depuis Kasumbalesa. Il dit ceci: je suis choqué d'entendre que l'UNICEF achète des vaccins et fait presque tout. Quel est le travail du gouvernement central? Avec tout ce que le représentant du gouvernement dit, comment voulez-vous atteindre les ODD, les objectifs de développement durable? Alors, Monsieur Malaba, il y a des questions qui vous ont été adressées par les jeunes reporters. Il y en a un qui a posé la question de savoir est-ce qu'on va toujours continuer à dépendre de l'UNICEF pour l'achat des vaccins. Et il a parlé également de dépistage. Les jeunes sont activement sexuels, les dépistages des jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui ont posé des questions?
Merci beaucoup pour ces personnes qui ont posé question. La question.
Veuillez rapprocher votre micro.
La question de Kasumbalé, ça rejoint pratiquement la question de notre jeune reporter tout à l'heure, mais je voudrais dire que le gouvernement n'est pas dépendant de ces partenaires. Non, nous sommes en collaboration avec ces partenaires. Vous savez que le monde d'aujourd'hui, seul, on n'arrive pas toujours seul à gagner une bataille ou à gagner une épidémie ou tout ça. Ce qui fait que nous devons travailler comme en partenariat. Là où on ne peut pas travailler seul. Et c'est comme ça que le gouvernement apporte suffisamment dans l'achat de vaccins. Peut-être que vous n'êtes pas informé. Le gouvernement lui-même apporte une certaine... achète et les partenaires appuient, complètent ce que le gouvernement ne peut pas faire. Donc il ne faut pas dire que le gouvernement ne fait rien. Le gouvernement achète. Si j'étais avec notre collaborateur du PEV ici, il vous dirait la proportion exacte du gouvernement que le gouvernement apporte dans l'achat de vaccins. Seul, en fait, tel que je suis ici, je n'ai pas amené avec moi ces éléments de réponse. Mais par rapport aux jeunes qui se dépistent, c'est que notre ami reporter ne connaît pas exactement ce qui s'est fait au niveau du programme des adolescents. Si vous fréquentez ce programme, vous allez constater qu'il y a des espaces de l'information. Les espaces où les jeunes arrivent, il lit, on a créé des espaces où il peut en cachette, en fait pas en cachette, mais sans que les autres s'en aperçoivent, consulter un médecin et voir comment est-ce que le médecin peut lui apporter les éléments à sa situation maladie qu'il a. Sinon, les espaces de l'information existent. Si vous fréquentez ces milieux-là, vous allez vous étonner et vous allez constater que ce sont des espaces pour lesquels vous avez malheureusement pas fréquenté. Ces espaces existent et je sais que si vous allez par exemple ici dans la ville de Kinshasa, si vous allez aux environs à l'hôpital Omeko de Matete, vous allez vous trouver à côté du centre de santé un espace d'information où on éduque les jeunes gens, on informe les jeunes gens, on dépiste, on fait les dépistages systématiques des personnes, des jeunes gens, des adolescents qui ont des problèmes de santé. Voilà à peu près. Je pense pas que on a pensé aux jeunes dans leur vie sociale, dans leur vie sexuelle. Je crois que
Monsieur Malaba, d'ailleurs, je reviens à vous tout à l'heure par rapport à la collaboration avec l'UNICEF en ce qui concerne le programme national de santé de la reproduction. Mais avant cela, docteur Pascal, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la vaccination?
Oui, je voulais revenir rapidement sur la question du financement de la vaccination en RDC. Nous parlons là de sommes, de montants importants. Comme je le disais tout à l'heure, le principal partenaire financier de la RDC dans ce domaine n'est pas l'UNICEF, c'est l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination. La RDC, comme l'UNICEF, d'ailleurs, comme l'Organisation mondiale de la santé, font partie de cette alliance, mais c'est le canal à travers lequel la majeure partie du financement extérieur arrive. Le gouvernement, à travers des fonds de contrepartie, contribue financièrement à cet effort. Tous les ans, le gouvernement verse ses fonds de contrepartie. Donc je voulais confirmer que la vaccination n'est pas financée exclusivement par la communauté internationale. Le gouvernement y contribue et nous souhaiterions évidemment, nous partenaires extérieurs, que le gouvernement progressivement augmente sa contribution pour devenir complètement indépendant de l'aide extérieure dans ce domaine.
D'accord. Par rapport à la collaboration avec l'UNICEF dans le domaine de la santé et de la reproduction, nous avons d'ailleurs la directrice du programme, Dr Marie-Thérèse Kyungu. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui a été fait ensemble avec l'UNICEF par rapport à la santé et de la reproduction? Et qu'est-ce qui reste à faire pour les années à venir?
Il y a toujours à faire, donc on ne peut pas dire qu'on a fini ce qu'on a à faire, mais on a quand même déjà fait beaucoup. Cette année, par exemple, je ne prends que cette année, nous avons pu travailler avec l'UNICEF dans le cadre de la formation des prestataires cliniques pour la prise en charge médicale des victimes de violences sexuelles. Et je parle particulièrement de cette activité parce que je sais que j'ai des petites filles, des jeunes filles dans la salle, des maîtresses, probablement des encadreurs, des jeunes, qui doivent être sensibilisés par rapport à cette question de violence sexuelle, parce qu'on en rencontre de plus en plus dans nos cliniques et il est important que les personnes qui travaillent dans les hôpitaux connaissent les règles, comment il faut procéder quand on reçoit un cas de violence sexuelle, encadrer les parents, leur dire comment ils peuvent réagir, comment ils peuvent protéger ses enfants par rapport à cette question précise. Ce n'est pas l'unique domaine dans lequel nous avons travaillé avec l'UNICEF.
Oui.
Il y a toutes les questions par rapport à la santé du nouveau-né que nous faisons ensemble. Nous avons des activités, notamment la vaccination qui a déjà été évoquée, la nutrition et d'autres questions qui intéressent la santé de l'enfant, les traitements des maladies diarrhéiques chez les enfants. L'UNICEF nous aide beaucoup à voir notamment les intrants pour soigner les diarrhées, pour prévenir les paludismes, etc. chez les enfants. Bon, la liste est très longue. Nous avons travaillé aussi dans les questions de dépistage des cancers du col de l'utérus et pour sensibiliser les mamans à se faire dépister systématiquement. Donc, bon, je m'arrête à cela, mais il y a beaucoup de travaux.
Alors, qu'est-ce qui reste à faire, docteur Marie-Thérèse Kiongo?
Ce qui reste à faire, c'est plutôt consolider les activités que nous avons déjà commencées, hein, parce que on a énormément à faire. On a parlé ici de l'élimination du tétanos. Nous sommes dans un processus, on doit éliminer les tétanos. Et il faudrait, actuellement, nous avons la possibilité de recevoir tous les cas de tétanos qui arrivent à travers le pays. Nous pouvons en être informés pour savoir exactement le nombre d'enfants qui meurent encore de tétanos. Mais nous devons pouvoir réagir à ces chiffres qui nous arrivent, aller sur place, savoir si c'est réellement du tétanos ou bien des diagnostics faussés et pouvoir nous organiser de manière à aider le programme dans le processus d'élimination de cette maladie qui est tout à fait évitable.
D'accord. Merci beaucoup, docteur Marie-Thérèse Kiongo. Monsieur Malaba, un complément par rapport à ce qui vient d'être dit.
Avec l'UNICEF, on travaille dans beaucoup de domaines en dehors de ce qui est pérenne, là, ce qu'on en venait de citer. Le fonds, par exemple, dans le cadre de PES, le programme du gouvernement dans l'équipement de structures de soins, les fonds sont donnés à l'UNICEF pour l'achat des équipements. C'est-à-dire, donc, c'est une manière de dire que nous travaillons avec en très bonne collaboration avec l'UNICEF pour nous assurer ces achats groupés au niveau international. Vous voyez que c'est déjà en dehors de ces interventions propres, l'UNICEF nous aide aussi dans d'autres domaines. Dans le domaine de la lutte contre la maladie, l'UNICEF intervient en tant que d'autres partenaires dans la lutte quand nous avons des épidémies. C'est-à-dire que l'UNICEF n'est pas focalisé seulement au niveau des enfants et de la mère, mais en cas d'autres événements dramatiques du pays ou événements importants du pays, l'UNICEF intervient également. Donc voilà à peu près ce que je peux dire par rapport à notre collaboration avec l'UNICEF dans les cadres qui nous lient ensemble.
Bien, un internaute de Kinshasa nous a écrit, monsieur, il s'appelle Yvonne Chimba, il dit, docteur Mavard parle du partenariat avec l'UNICEF, notamment en ce qui concerne le village Assini. Je pense que Kinshasa doit être transformé en village Assini. La capitale est très sale. C'est la vie des millions de Congolais qui est en danger. Le nouveau Premier ministre qui nous suit ou qui aura l'écho, qui se penche sur cette question des salubrités, car la ville a montré ses limites. Docteur Mavard, la question vous est adressée. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cet internaute, à Yvonne Chimba, qui nous a écrit, qui nous écoute en ce moment depuis Kinshasa?
Merci Yvon, je pense que je ne dirais pas que tu as tort, je ne te donne pas raison non plus. Kinshasa a 9 900 km², dont 330 km² seulement est habité et ce qui constitue la ville. Donc en fait, dans la partie rurale, c'est vrai que Kinshasa, le programme Village Assaini est à Kinshasa dans la partie rurale. Et dans la partie urbaine, nous avons une stratégie avec les autres ministères, notamment l'environnement, notamment pour améliorer l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Donc, on est ensemble par rapport à ça. Donc,
docteur Mavar, ne trouvez-vous pas que l'hygiène pose problème à Kinshasa? Nous avons maintenant des collines, des montagnes, des immondices dans les différents quartiers et qui dégagent des odeurs nauséabondes et qui ne sont pas évacuées régulièrement.
Oui, je pense que ça, c'est... Vous savez que à l'époque de l'indépendance, c'est au fait l'hygiène, la santé qui s'occupait de tout ça. Mais après l'indépendance, vers les années 74, on a dû séparer les attributions. Et les attributions liées à la gestion des inondices, c'est donné à l'environnement. Donc, en fait, il faut approcher les collègues de l'environnement, notamment la Direction nationale d'assainissement, qui a des moyens du gouvernement et qui s'en charge régulièrement. Mais évidemment, en ce qui concerne la promotion de l'hygiène, la promotion des pratiques clés, évidemment, ça, c'est rester à la santé. Et la santé fait un effort pour améliorer, en fait, toutes ces interventions.
Merci docteur. D'autres questions dans la salle? Nous sommes en direct de l'espace Bilembo au Capi Service à l'occasion de 70 ans de l'UNICEF et de la célébration de la Convention relative aux droits de l'enfant. Des questions? Vous avez des questions? N'hésitez pas à venir rapidement devant ce micro-là. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Gloire Makwala, je suis politologue, analyste politique. Je veux faire d'une pierre deux coups. Peut-être le monsieur qui est devant pourrait aussi représenter le gouvernement d'une autre manière. Je fais d'abord un constat pour dire que les enfants qui sont ici à ma droite sont bel et bien représentés par un ministère qui n'est pas sur ces plateaux, qui est le ministère des gens, familles et enfants, qui est vraiment absent dans ces plateaux au niveau national, bien entendu. Et puis au niveau international, c'est l'UNICEF, l'organisateur. On concède ça.
Et puis, ne vous en faites pas, on aura d'autres émissions avec les représentants du ministère des genres et familles et de l'éducation, évidemment.
Ok, merci.
D'ailleurs, il était là, ne vous en faites pas.
Il est parti, ok.
Voilà.
Et puis, comme question, j'aimerais poser la question à l'UNICEF. Commençons d'abord par chercher à savoir quelle est la mission de l'UNICEF. Parce que juste en sortant ici sur le Grand Boulevard, nous avons des enfants qui vendent, des petits enfants luminaires comme ceux qui sont en bleu blanc à ma côté ici, à ma droite, qui sont en train de vendre cacahuètes, eau et autres. L'UNICEF passe par là avec de belles jupes. Je ne sais pas s'ils ont aussi le temps de faire comme nous autres, contacter ces enfants, poser la question pourquoi ils sont à la rue, pourquoi ils sont en train de faire ceci ou cela. Bon, un autre moyen, nous nous arrêtons juste à acheter une bouteille d'eau et un petit pain. Alors que c'était vraiment le rôle reconnu à l'UNICEF et puis au gouvernement. Et je me demande, l'UNICEF par sa mission, qu'est-ce qu'elle fait? Et puis le gouvernement par sa mission, parce que déjà parlant du gouvernement, bon, ça c'est même pas une discussion politique, ce sont des analystes politiques en tant que politologues. Partant de l'école développementaliste d'Edward Schild, je dirais que le gouvernement congolais est un état failli. Mais je me dis maintenant...
Bon, la question est de savoir, vous avez parlé des enfants qui vendent des cacahuètes.
Oui.
D'après vous, l'UNICEF devait les aider à sortir de cette situation, de mettre fin au travail des enfants.
Je me dis ces enfants, et oui. Puis nous avons aussi des mineurs qui se font exploiter par les majeurs. Juste toujours au boulevard, nous avons de personnes malvoyantes, des personnes infirmes qui utilisent ces mineurs à leur fin pour gagner de l'argent. Je me dis, est-ce que l'UNICEF a le temps de contacter ces enfants, récupérer ces enfants et les réinsérer aussi avec d'autres enfants et aussi des bleus blancs comme ceux qui sont à ma droite?
Merci.
Merci.
Question? On vous écoute. Nous sommes en direct de l'espace Bilembo à Gombe à l'occasion des 70 ans de l'UNICEF et nous rappelons qu'une exposition photo, UNICEF 70, est organisée dans le cadre du 70e anniversaire de cette institution. Alors visitez cette exposition à l'espace Bilembo tous les jours de 9h à 10h, sauf le lundi. Bonjour, quelle est votre question?
Bonjour, moi c'est Yannick Ilosono, le comité de AC Wangata et nutritionniste de l'ISTEM Kinshasa. Ma question est celle-ci. Vous venez de dire que le taux de la malnutrition est très élevé. Qu'est-ce que l'UNICEF a mis sur pied pour la réduction de cette malnutrition-là? Merci beaucoup.
D'accord. Docteur Pascal, vous avez la parole.
Bien, merci. Je vais revenir à la question précédente en apportant une clarification importante. Je pense l'UNICEF n'a pas pour mission de se substituer aux États, que ce soit en RDC ou ailleurs. Nous sommes une organisation intergouvernementale Nous sommes ici, maintenant depuis plus de 50 ans, à l'invitation du gouvernement congolais, des gouvernements congolais successifs, et les ressources que nous apportons, qui ne sont pas négligeables, visent à renforcer les capacités de la société, y compris de l'État, à satisfaire les besoins des enfants. Ces besoins ne sont pas tous couverts. Nous sommes encore, je crois, assez loin de cela. Je pense que l'exemple des enfants qui sont dans la rue avant des cacahuètes est une illustration de cette situation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré tout, et je le mentionnais tout à l'heure, le simple fait que, à travers la vaccination, le pays se soit débarrassé d'une maladie comme la poliomyélite, fait que, à Kinshasa, je crois nous en faisons l'expérience tous les jours, nous ne voyons plus d'enfants traînant, paralysés, exploités, parce qu'un enfant ayant un handicap physique est naturellement une victime de l'exploitation. Nous ne voyons plus ces cas-là. Donc voilà, ce sont des exemples qui montrent que, à travers cette coopération, des progrès ont été réalisés. Mais évidemment, il y a encore beaucoup à faire.
Oui.
Et c'est pour ça que nous sommes ici, d'ailleurs. S'il n'y avait plus vraiment de défis, notre présence deviendrait inutile et nous ne serons pas là aujourd'hui pour en débattre.
Monsieur Malaba, vous avez la parole.
Bien. Par rapport à la nutrition, je crois que, bien sûr, les défis demeurent parce que le taux de malnutrition est resté presque le même et puis peut-être ça s'est aggravé. Mais sinon, avec l'UNICEF, on a entamé beaucoup de choses par rapport à ces domaines-là.
Mm-hmm.
Dans le cadre de politique...
Oui, veuillez rapprocher votre micro.
Dans le cadre de politique, m'excuse. Dans le cadre de politique, l'UNICEF aide notre programme national de nutrition à élaborer ses politiques, à mettre des stratégies nécessaires pour que rencontrer les préoccupations de population. Dans l'élimination de goitre, comme nous l'avons dit ici avec l'UNICEF, nous avons pu éliminer le goitre dans la République démocratique du Congo et en introduisant sur le plan national les sels iodés. L'allaitement maternel, vous êtes au courant de ce que c'est. L'allaitement exclusif, c'est une stratégie qui a été appuyée par l'UNICEF. Donc, pour beaucoup de choses, je pense, nous sommes en collaboration parfaite avec l'UNICEF et les appuis d'UNICEF. Et pour ce faire, je voudrais que les directeurs du programme puisse en donner de plus amples détails.
Le directeur du programme national de nutrition, Dr Jean Bameya, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, parlez-nous de ce qui a été fait ensemble avec l'UNICEF dans le cadre de la nutrition et des défis qui restent à relever.
Je pense que la nutrition, si on regarde, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je vois tous ces enfants ici, qui sont à l'école, qui sont des enfants intelligents, mais ils ne savent pas qu'ils sont arrivés là grâce à l'appui de l'UNICEF qui a commencé quand ils étaient quand leur maman était enceinte. Et ça continue. Et ils ont été bien allaités. Qui rentrent, qui demandent à leur maman, comme le secrétaire général Aïe vient de dire, si aucune des mamans ne connaît pas, ne fût-ce que n'a jamais entendu parler et n'a pas appliqué de sa façon. Pour cela aussi, c'est une autre paire de manches. L'allaitement maternel exclusif. Je vous dis, en tout cas à Kinshasa, on n'en aura pas. Ça, c'est l'UNICEF. Et je vous dirai encore, le secrétaire général a peut-être survolé sans qu'on fasse attention. Tout homme qui a mangé, comme ces enfants ici, qui adorent les pains, qui a mangé ce matin, les empreintes de l'UNICEF sont là, dans la biofortification. Comprenez? Dans la biofortification. et biofortification, c'est-à-dire enrichir ces pains-là en éléments nutritifs. Ici, dans notre cas, maintenant, c'est les fer. Alors, il y a quelques années, vous voyez, en 90, ce pays était le pays le plus atteint par ce que nous appelons les TDCI, qui comprennent le goitre, le bombement du cou ici. On a, à ce moment-là, c'était 45%. Vous vous imaginez? 90. Aujourd'hui,
on est à combien?
0,3%. 0,3%. Alors, vous voyez, vous venez de 45 à 0,3%. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Grâce à la stratégie de CELIOD que vous avez aujourd'hui.
Il y a presque plus de cas de goitre à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo.
Non, le goitre a plusieurs sources, à plusieurs causes.
Ok.
Le goitre, ce que nous appelons goitre nutritionnel, qui vous apparaît comme ça, vous êtes quelque part, comme les gens qui étaient à Lubangui, en Ituri, à Ilidjoui, à Kalemi, tout ça, ça n'existe pas. Mais il y a certaines maladies qui peuvent faire que vous, votre glande thyroïde soit atteinte et vous puissiez faire les goitres. Ça, ça existe, mais c'est négligeable.
D'accord. Docteur Jean Bamena, dites-nous, qu'est-ce qui reste à faire dans le domaine de la nutrition? Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les mamans allaitent leurs enfants et recourent à l'allaitement exclusif pendant six mois?
Non, il faut que vous puissiez aussi bien prononcer mon nom, puisque ceux qui nous écoutent, ils peuvent avoir l'occasion de bien écrire. Ce n'est pas Jean Bamena, c'est Jean-Pierre Baneya.
D'accord.
Voilà, ça c'est mon nom. Alors, pour ce qui est de l'allaitement exclusif, je vous dirais... bon, j'aurais voulu quand même un peu peut-être apporter un petit éclairage de la part du gouvernement en ce qui concerne la malnutrition. Bien sûr, nous disons que nous n'avons pas fait beaucoup de progrès dans ce domaine, mais dans le domaine de la malnutrition aiguë, ce que les gens appellent comme ça les kwashiorkor, les marasmes, nous avons fait quand même des progrès. Puisque pour le moment, c'est 8%. Mais la malnutrition chronique, qui est la malnutrition qui conditionne notre avenir, évidemment, on n'a pas fait vraiment beaucoup de problèmes, de progrès, pour la simple raison que la faute est partagée par la communauté internationale. C'est maintenant que nous savons que c'est un problème crucial. Et l'UNICEF nous a aidés à nous donner des batteries pour combattre cette malnutrition chronique.
D'accord. Merci, docteur Jean-Pierre Baneya, directeur du programme national de nutrition. Je reviens à vous tout à l'heure, le temps d'accueillir quelques questions des auditeurs. Il nous reste pratiquement 10 minutes avant la clôture de cette émission spéciale en direct de l'espace Bilembo à Gombe à l'occasion des 70 ans de l'UNICEF. Alors, une question, bonjour.
Bonjour.
Docteur Yves Daniel.
Docteur Yves Daniel Ngavan. J'aimerais d'abord saluer le travail de l'UNICEF, mais je pense que le plus grand problème que nous avons en ce qui concerne les enfants, si l'UNICEF est d'accord avec moi, c'est aussi la démographie. En RDC, nous avons le taux de naissance de 1000, moyenne 1000 enfants par jour. Donc, quand vous multipliez 1000 fois 365 jours, vous pouvez avoir déjà le nombre d'enfants que nous donnons au monde en RDC. Nous avons des problèmes de croissance, nous avons des problèmes de chômage, ce qui fait que ces enfants qui naissent n'ont pas assez de chances pour bénéficier de toutes les conditions nécessaires. Alors, je vais savoir un peu quelle est la politique de l'UNICEF, bien sûr, ensemble avec le pays, en ce qui concerne le problème de la démographie, surtout le taux de natalité. Est-ce que on ne peut pas aller aujourd'hui dans de mesures telles que limiter le nombre de naissances, par exemple, en RDC, pour permettre à faire un peu d'économie, de pouvoir construire des infrastructures, alors au lieu de continuer à donner naissance aussi longtemps que les ressources sont minimes.
D'accord. Merci, docteur Yves Daniel. Oui, madame.
Oui, merci encore pour la parole. C'est toujours Maître Rosette Cagnier, avocate au barreau de Kinshasa-Gombe. Je voulais revenir un peu sur l'intervention de madame qui a parlé de la santé des reproductions. Elle a épinglé la question liée aux victimes de violences sexuelles. En fait, cette question, elle est d'actualité ici à Kinshasa et partout dans la République démocratique du Congo. Nous avons vu la plupart des victimes qui ne savent même pas trouver les frais, surtout lorsqu'il y a déjà une instance en justice pour se faire examiner. Est-ce que vous avez déjà fait des efforts pour faire un plaidoyer à ce que les frais des examens médicaux pour les victimes de violences sexuelles soient un peu à un coût réduit? Parce que nous avons eu un peu à assister des enfants dans ce sens. Vous allez trouver la famille qui dit qu'il n'a pas de moyens pour amener l'enfant se faire examiner. Or, plus le jour passe, plus il n'y a pas la chance qu'on puisse trouver la preuve que la personne a été réellement victime de violences sexuelles.
D'accord.
Je voulais, si je peux encore
rapidement,
continuer,
rapidement. Nous reste 7 minutes, rapidement.
Oui, de m'adresser aux représentants de l'UNICEF. La loi portant protection de l'enfant fait de l'avocat un partenaire capital pour l'assistance de l'enfant. C'est-à-dire quand l'avocat, l'enfant n'est pas assisté, il n'y a pas de procès. Qu'est-ce que l'UNICEF fait pour que les partenariats avec les barreaux puissent être permanents afin que les enfants puissent toujours être assistés? Merci beaucoup.
Merci. Oui.
Merci beaucoup pour la parole. Don du ciel Henriette, communicologue des organisations. Au fait, nous assistons aujourd'hui à un accroissement spectaculaire du taux d'enfants de la rue. C'est déjà une menace contre l'avenir de la République démocratique du Congo, puisque ces enfants qui passent nuit à la belle étoile sont exposés aux différentes sortes de maladies liées à l'environnement, liées à l'hygiène, et sont aussi exposés aux problèmes de la nutrition. 53 ans durant en RDC, quelles sont les stratégies que l'UNICEF a pu mettre en œuvre pour éradiquer ce phénomène, ou soit faciliter la réintégration de ces enfants au sein de leurs familles respectives? Et quelles sont les perspectives que l'UNICEF envisage pour éradiquer ces phénomènes?
D'accord, merci. Dernière question avant de clôturer cette émission. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Merci beaucoup pour la parole.
Le nom?
C'est la part de Petimbo Rudy, politologue. En fait, 70 ans, 53 ans, félicitations. Dans les 53 ans, la RD Congo a connu plusieurs atrocités dans son ensemble. C'est pour cela que vous avez dit que le bilan de l'UNICEF n'est pas vraiment positif. Alors ma préoccupation intervient là. Qu'est-ce que vous préconisez comme solution sur terrain pour la réussite de l'UNICEF en RD Congo? Merci.
Bien, on commence avec M. Malaba.
Je prends la dernière question. Je crois que nous n'avons pas dit que le bilan est négatif, hein. Nous avons dit que le bilan de 53 ans de coopération, de collaboration avec l'UNICEF est suffisamment positif. Nous avons atteint des objectifs et nous en atteindrons encore. Donc je ne pense pas que le bilan est négatif. Je ne pense pas. Je peux évoquer un peu la question sur la démographie, mais je ne. En fait, avec le ministère de la Santé, quand. En fait, quand bien même la question démographique ne concerne pas le ministère de la Santé, ça concerne le gouvernement tout entier, la part du ministère de la Santé, c'est dans la planification. Madame en a parlé, nous faisons la promotion de la planification familiale qui, en quelque sorte, contribue à une à normaliser la vie dans une famille avec le nombre d'enfants voulus. Donc la planification, elle est là pour aider les familles à voir les enfants quand ils le veulent et au nombre suffisant. Donc si moi j'ai des moyens, je peux avoir les enfants que je veux. C'est ça la contribution du ministère de la Santé dans cet aspect-là démographique. Quitte à ce que la question générale démographique concerne tous les autres ministères, en fait c'est une question qui se compénètre, mais je crois que la part de la santé est celle-là dans le cadre de la planification familiale.
Il y a eu également une question par rapport aux filles qui ont été victimes des violences sexuelles. Alors, oui. Il faut rapidement aller à l'hôpital pour avoir des traces, mais quand on n'a pas de moyens d'aller à l'hôpital...
Oui, mais je crois qu'il y a, il y a des structures qui prennent en charge les violences sexuelles. Si vous allez à Saint-Joseph, je crois qu'il y a des structures, il y a un cadre approprié pour la prise en charge des violences sexuelles. Et à travers le pays, on en met davantage ces structures pour la prise en charge de violences sexuelles. Je ne pense pas qu'on ne fait rien dans ce cadre-là. Et bon, je crois qu'il y a question d'être informé pour pouvoir amener ces femmes qui souffrent de violences sexuelles. Je crois que madame peut-être a une contribution à ses propos, mais elle pourra, si le temps nous permet.
Bon, malheureusement, on n'en a plus assez. Bon, on va clôturer cette émission. Docteur Pascal, vous avez la parole.
Merci. Je crois qu'un certain nombre des questions qui ont été soulevées mériteraient peut-être une autre émission pour en débattre de façon plus longue, parce que c'est des questions importantes. Très rapidement, je veux apporter peut-être un complément d'information par rapport à ce que disait le docteur Banea tout à l'heure. Le fait qu'il n'y ait plus de goitre nutritionnel est important. Pourquoi ? Parce que un goitre nutritionnel lié à une carence en iode, pendant la grossesse, nous savons que cela affecte le développement mental du fœtus pendant la grossesse.
Il vous reste 10 secondes. Hein.
Oui, mais c'est important. Et donc, le goitre nutritionnel était l'une des principales causes de retard mental avant. Ça n'est plus le cas. Je pense que c'est un bel exemple de succès.
Bien, merci Dr Pascal Villeneuve, représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo. Merci à Monsieur Malaba Mounianji, directeur chef des services et secrétaire général AI au ministère de la Santé publique. Et merci à vous tous qui êtes venus nombreux participer à cette émission spéciale Okapi Service en direct de l'espace Bilembo à Kinshasa à Gombe à l'occasion des 70 ans de l'UNICEF. Merci à toute l'équipe de production, Sylvain Matundu, Tati Mapuku, Nounongoy, Pitakuta, Patrick Kiasongwa, Nico Kalambay, merci à vous tous qui avez contribué à la production de cette émission. Nous vous disons merci à vous tous, auditeurs de Radio Okapi à travers la République démocratique du Congo, et merci à vous tous qui nous écoutez à l'étranger sur www.radiookapi.net. À la prochaine.